Saga du Labo présente Énergie finale versus énergie primaire. Lorsque vous parlez d'énergie, vous pouvez rencontrer deux types d'interlocuteurs. Les consommateurs, qui vont vous parler de l'énergie finale, celle qui paye. Et les énergéticiens, qui vont vous parler, eux, de l'énergie primaire, celle qui a été nécessaire pour créer celle que les consommateurs payent. En effet, l'énergie qui est produite dans une centrale nucléaire ou dans l'alternateur d'une éolienne va subir des pertes lors de sa création et de son transport. Les pertes sont quantifiables et dépendent des moyens de transport et de la façon dont a été générée l'énergie. Je vous renvoie à notre autre podcast sur les pertes électriques du réseau. Donc, pour résumer, l'énergie primaire, c'est égal à l'énergie finale plus les pertes. Les pertes peuvent être très importantes et sont un enjeu de taille pour réduire les émissions de carbone ou diminuer le coût de l'énergie. Il existe un coefficient pour chaque énergie qui relie l'énergie primaire à l'énergie finale. Ce coefficient permet de comparer les énergies entre elles. Par exemple, pour obtenir 1 kWh de gaz, vous devez produire 1 kWh de gaz. C'est simple. Mais si vous voulez obtenir 1 kWh d'électricité, vous devez produire 2,3 kWh d'électricité. Jusque-là, tout va bien. Vous avez sûrement compris le concept d'énergie finale et d'énergie primaire. Et vous êtes prêt à rentrer dans les petites combines des mafieux de l'énergie. En effet, il y a quelques mois, une bombe est tombée sur le monde de l'énergie. Le coefficient d'énergie primaire, ou CEP, de l'électricité en France est passé de 2,58 à 2,3. Mais est-ce que cet abaissement du CEP peut entraîner un changement d'envergure pour les Français ? Attention, ceci n'est pas une fiction. Selon le communiqué officiel du gouvernement, ce coefficient a été modifié suite à des arbitrages de la réglementation énergétique 2020. Il faut savoir que tous les calculs liés à l'énergie sont basés sur l'énergie primaire. Cela est valable pour la classe énergétique de votre bâtiment ou l'obtention d'un permis de construire. Le coefficient d'énergie primaire va donc influencer les choix dans le secteur du bâtiment. Si vous baissez le coefficient de l'énergie électrique, vous encouragez mécaniquement le développement des systèmes fonctionnant à l'électricité. En effet, plus un coefficient est bas, plus il avantage l'énergie concernée. Le choix des mafieux donc de l'énergie est donc très clair. Aujourd'hui, vous êtes fortement encouragé à utiliser de l'énergie électrique pour chauffer votre bâtiment. Mais comment donc est calculé ce coefficient ? Le calcul du coefficient est complexe, car il dépend du mix électrique français. Les experts ne sont pas tous d'accord sur la façon de calculer et sur sa valeur finale. Ce coefficient est basé sur l'anticipation de la valeur que l'on pourrait atteindre en 2030 avec le mix électrique prévu par le gouvernement. Ce coefficient ne prend pas en compte le fait qu'en hiver, la production de base nucléaire ne suffit pas à répondre aux pointes de la demande du chauffage électrique, et qu'il est donc nécessaire d'avoir recours à des centrales fossiles. Ainsi, le kilowattheure consommé pour le chauffage électrique est bien plus carboné que le laisse entendre la valeur de 79 grammes par CO2 par kilowattheure. Il émet en réalité près de 210 grammes de CO2 par kilowattheure. Mais alors, quelle est la stratégie énergétique du gouvernement ? Eh bien, le gouvernement cherche à favoriser le tout électrique. Lorsque l'énergie électrique chauffe votre logement, elle n'émet pas de CO2, contrairement à votre chaudière fuel. Cependant, le chauffage électrique est loin d'être assuré seulement par les centrales nucléaires. Il faut également faire appel aux centrales fossiles, notamment en période de grand froid. L'énergie électrique rejette elle aussi de grandes quantités de dioxyde de carbone, soit 210 grammes de CO2 par kWh, contre 490 grammes de CO2 par kWh pour le gaz, soit deux fois moins. Alors, quelle est la réalité physique en période de grand froid ? Lorsqu'il fait très froid, le CEP, donc coefficient d'énergie primaire, n'est plus le même, car des centrales thermiques à charbon vont être utilisées pour produire l'électricité. Nous obtenons la schématique suivante. Premièrement, vous produisez de l'énergie électrique grâce à du gaz pour chauffer votre logement, le CEP est de 3. Vous acheminez du gaz jusqu'à votre maison, puis vous le brûlez pour chauffer votre logement, le CEP est de 1. Autrement dit, gaz est égal électricité qui est égal chaleur qui consomme 3 fois plus d'énergie primaire que si l'on brûlait ce même gaz en chaleur de chez soi. Cela est dû aux pertes plus importantes pour transformer le gaz en électricité. Ainsi, lorsque vous chauffez votre logement avec des radiateurs électriques, vous consommez davantage d'énergie que si vous le chauffiez au gaz. Il en va de même pour les pompes à chaleur qui, en période de grand froid, vont avoir un rendement proche de celui du radiateur électrique. Alors, que faut-il retenir ? En premier lieu, il faut bien comprendre que l'énergie primaire et l'énergie finale sont liées entre elles. Cependant, en fonction des différentes volontés politiques et non des réalités physiques, les coefficients d'énergie primaire peuvent être modifiés pour valoriser l'énergie la plus en vogue à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est l'énergie électrique qui apparaît comme l'énergie du futur. Celle-ci est dite décarbonée car produite en grande partie par des centrales nucléaires. Cependant, elle n'est pas sans risque et son rendement entre énergie finale et énergie primaire est très mauvais. Pour conclure, ayez en tête que le gouvernement français cherche à promouvoir le chauffage électrique par radiateur ou par pompe à chaleur, au détriment des poêles à bois ou des chaudières à gaz à condensation. Un grand merci d'avoir été au bout de ce podcast. Tu peux retrouver nos sources sur notre Instagram, les gars du labo, et toutes les nouvelles de nos actions de vulgarisation. Ce serait avec plaisir de lire tes retours, tes avis, ou de répondre à tes questionnements sur cet épisode. Les gars du labo est un média amateur d'étudiants en sciences économiques et énergétiques. Yes.